À voix nue. Cette semaine, Alexandre Breton rencontre Marie-Pierre Pruvot, alias Bambi. Ce soir, l'autre scène, être femme.
Marie-Pierre Pruvot, bonjour.
Bonjour, Alexandre Breton.
Nous sommes donc dans cette troisième partie de nos entretiens pour À voix nue, et hier, mardi, vous nous racontiez ce qu'on pourrait appeler les années cabaret au cours desquelles vous allez passer de chez Madame Arthur au Carrousel, enfin rencontrant Coccinelle, découvrant la grande vie, la belle vie parisienne, vous affirmant aussi au contact de Coccinelle dans cette position de femme, dans cette réalité de femme, dans ce désir de femme. Je souhaitais justement qu'aujourd'hui nous abordions ce qui relève d'une décision qui a dû avoir son propre cheminement, son processus, qui vous mène à découvrir qu'un médecin à Casablanca, au Maroc, peut procéder à l'opération. Comment tout ça se met en place? Quel est justement le cheminement, les questionnements qui ont précédé cette décision?
Bon, il me semble, moi j'ai vécu les choses d'une façon beaucoup moins compliquée que cela. On me dit un désir de femme, etc. Non, une sensation de l'être, et je n'allais pas plus loin, j'ai jamais voulu aller plus loin, c'est resté ancré en moi. J'ai trouvé des gens qui étaient comme moi, comme Coccinelle, etc. Et bon, j'étais ravie de tout ça. Alors, on entendait parler d'opérations, mais Coccinelle, qui suivait ça de très près, quand elle a entendu parler de Christine Jorgensen ou de Michel-Marie Poulain, elle a approfondi la question et elle m'a dit « c'est pas pour nous, non, c'est pas, ça n'a rien à voir avec nous, c'est pas pour nous ». Mais un beau jour, elle a rencontré quelqu'un qui s'appelait Jenny, que j'ai rencontré l'année suivante, qui m'a fait exactement le même coup. Elle s'arrête devant Coccinelle, elle était sur une Vespa, une petite moto Vespa, et elle lui dit « bonjour Coccinelle, oui ». Et elle lui dit « je suis un petit garçon, comme vous ». Coccinelle n'en revenait pas, et en effet, elle avait l'air d'une jeune fille de 17-18 ans, coiffée avec sa petite coiffure, comme ça, qui revenait. Et elle est repartie, comme ça. Coccinelle a dit « oh, vous êtes très jolie ». Je ne sais plus ce qu'elle racontait. Moi non plus, j'ai oublié ce que j'ai répondu, d'ailleurs, aussi. Mais 2 ans plus tard, donc, elle a rencontré Coccinelle à Casablanca. Et elle revoit Coccinelle, elle se présente, Coccinelle ne la reconnaissait pas, et elle lui dit « je suis Jenny ». Et Coccinelle dit « bon, d'accord, oui, très bien, je ne vous reconnaissais pas », elle avait dit qui elle était. Et elle lui dit « ça y est, je suis opérée ». Opérée? Mais opérée de quoi? Coccinelle était attentive, mais elle ne voulait pas y croire, ce n'était pas possible que ça se présente là, à Casablanca. Et elle lui parle du docteur Bureau, et elles vont de ce pas chez le docteur Bureau qui les reçoit, et le docteur Bureau met Jenny en position gynécologique, et bon, Coccinelle est convaincue, elle prend aussitôt rendez-vous. Voilà.
Oui. C'est en quelle année?
Oh, ça doit être en 58. Je pense que c'est en 58.
Vous ne pouviez pas être informé autrement. Vous parliez tout à l'heure de Christine Jorgensen. Pourquoi ça ne correspondait pas?
Je sais plus ce que m'a raconté Coccinelle. D'abord, ça a été fait en plusieurs fois. Elle est restée 6 mois, ni bic ni bouc, mais c'est un petit peu ça. Et donc, une souffrance. Et puis, Coccinelle n'était pas convaincue. Elle m'en a parlé à cette époque. Donc, tout de suite, quand on s'est connus, moi, ça me paraissait exotique, cette affaire. J'étais sur mes gardes. J'ai toujours été sur mes gardes. Et donc, Coccinelle, tout d'un coup, a découvert Jenny. Et Jenny lui dit « oui, j'ai découvert le docteur, il m'a parlé, je l'ai supplié de penser à ça. » Et il m'a dit qu'il y pensait. Un beau jour, quand je suis retournée le voir, il m'a dit « oui, on peut tenter, si vous voulez, on va essayer de faire ça en une seule fois, etc. » Il a essayé et Coccinelle était convaincue. Donc, elle a pris rendez-vous. Elle est allée avec une amie, Pamela, qui est passée avant elle. Bon, le lendemain, Pamela était bien vivante, donc Coccinelle est allée à son tour. C'était parfait. Et Capucine a suivi de près, etc. Moi, j'ai attendu. J'ai attendu 2 ans. J'ai voulu voir un petit peu ce que ça donnait parce que j'arrivais pas à avoir de détails précis et convaincants. Je craignais fort que ce soit, j'allais dire, une duperie, voyez-vous, parce que on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on obtient. Alors moi, je voulais être sûr de ce que j'allais obtenir, voilà, d'une possibilité de vie normale. Pas d'être, comment dirais-je, pas d'être privé des plaisirs de la vie, éventuellement. Il faut mettre ça au compte des plaisirs de la vie. Voilà ce que je voulais.
Quel était le discours, ou le non-discours peut-être, ambiant, comment ce type de décision pouvait se prendre, en tout cas comment ça pouvait se vivre
dans le contexte de l'époque. Non, mais ce type de décision, on y courait sans y réfléchir en général.
Je veux dire, par rapport à l'époque, au contexte, oui. Et au discours ambiant sur la situation de ces personnes qui souhaitaient une transition, une métamorphose.
Bon, on n'en discutait pas, elles prenaient rendez-vous, elles y allaient. Le docteur Bureau était réticent à l'époque, c'était Saint-Bureau à l'époque, voyez-vous, il avait fait ça, il ne pensait pas qu'il allait gagner une fortune avec ça. Parce qu'il l'a gagné, il a fini par la gagner, la fortune. Les gens ont accouru de partout. Les États-Unis, de partout.
Mais c'est quand même, il fallait aller au Maroc, c'était pas en France.
En France, c'est interdit.
Voilà, c'est ça. Mmh. Non seulement c'était interdit, mais il me semble que il y avait un discours même, comment dire, répressif.
Ah ben non, la preuve, c'est qu'on n'a pas été inquiétés.
Je parlais par exemple de la souffrance de personnes qui pouvaient, dans leur famille ou dans leur contexte familial.
Oh, ben ça, c'est, ouais. Ça dure encore. Ça dure encore. Si le refuge existe, on appelle ça le refuge, c'est bien qu'il y a des parents qui mettent leurs enfants, la valise des enfants sur le palier. En les faisant quelquefois souffrir beaucoup plus avant de les expulser.
Qu'est-ce que ça introduit comme changement ? Est-ce que vous passez d'une féminité qui est vécue sur le mode du jeu et de la scène ? Ça ne veut pas dire qu'elle est moins réelle. Hein. Ce vécu intime, il se réalise. Qu'est-ce que ça introduit chez vous ? Qu'est-ce que ça...
Mais enfin,
quelle réflexion ça suscite ?
Rien de particulier, je vous assure. J'ai l'impression que c'est une succession de choses qui se passent naturellement. Ça existe. Ça fait 2 ans que ça existe quand je m'y rends moi-même. Ça fait partie de la vie. J'allais dire, ça n'a pas tellement plus d'importance dans l'état d'esprit où je vais que se refaire faire le nez, à vrai dire. Vous comprenez, c'est pas un problème, c'est plus un problème pour mon ami qui a beaucoup souffert que je ne sois pas comme une femme ordinaire, etc. Il a fallu qu'il... Et puis après, une fois qu'il était attaché à moi, il voulait plus que je change. Mais enfin, moi, je ne m'occupais pas tellement de lui, je m'occupais de moi. Puis on a vécu encore ensemble 10 ans.
Il a fallu changer aussi d'état civil.
Oui, alors ça c'était un problème pour moi parce que j'étais née en Algérie. Et qu'il fallait que... J'ai eu un avocat qui s'est occupé de ça en France et qui m'a laissé comme ça sur le grill pendant je ne sais combien de temps, en me demandant régulièrement de l'argent. Mais un beau jour, je lui ai dit, mais enfin, où en sommes-nous ? Il m'a dit, mais ma pauvre... C'était un ami. Il m'a dit, mais ma pauvre chérie, que veux-tu ? C'est absolument interdit, tu n'auras pas ton état civil. D'ailleurs, c'est en Algérie, on n'y a pas accès à ce qui se passe en Algérie. C'était dans l'Algérie indépendante, bien sûr. Et bon, donc j'ai attendu que l'Algérie soit indépendante, d'être tranquille là-dessus, que mon oncle ne soit plus sur place. Et puis je suis allé à Alger. J'ai vu un avocat et j'ai demandé qu'il me fasse ça. Ça s'est fait rapidement. En 3 mois, c'était fait, c'est tout.
Vous passiez de Jean-Pierre à Marie-Pierre.
Voilà, c'est ça.
Et pourquoi Marie ?
Pourquoi Marie ? Ben parce que d'abord c'est un prénom qui plaisait beaucoup à ma mère et ma mère aurait aimé si elle avait eu une fille déclarée fille au moment de ma naissance, elle aurait aimé l'appeler Marie. Mais elle a voulu Pierre, mon père a pris Jean-Pierre et moi j'ai pris Marie-Pierre. Enfin, j'ai voulu changer le moins possible le prénom que mes parents m'avaient donné. Parce que bon, je n'avais pas de raison de me rebeller contre mes parents. Et j'ai pris Marie-Pierre, comme ça conserve.
Vous conserviez le Pierre initial.
Je conservais le Pierre qui était le nom de mon grand-père.
Et alors justement, comment votre mère...
Ma mère ne m'a jamais appelé Marie-Pierre. Elle a continué à m'appeler Bambi. Ma mère était contente de tout ça. Quand je lui ai dit, maman, je pars faire l'opération à Casablanca, tu peux le dire dans la famille. Elle m'a dit, mais ça fait 2 ans que je dis dans la famille que c'est fait. Voilà.
Là, vous poursuivez vos activités au sein des cabarets.
Ah oui, oui, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la veille de partir à Cherbourg, je suis dans les cabarets. Oui.
Et c'est dans ces années-là que vous croisez une autre figure, une personne importante dans votre trajectoire, c'est Houtheval.
Oui, c'est 2 ans plus tard.
Alors du coup, 2 ans plus tard, nous sommes en quelle année ?
En 62, je la vois en 62. Elle me voit la première fois dans un cabaret où elle est invitée. C'est chez elle et lui, c'est un cabaret dit féminin. Et elle me voit, et elle cherche à entrer en contact avec moi. Elle finit par entrer en contact avec moi. Et elle se fait embaucher même chez elle et lui. Elle veut absolument être là. Et elle apprend ce qu'on appelle mon parcours, c'est-à-dire qui, voilà. Et elle apprend, elle entend dire, naturellement, dans un cabaret féminin, vous savez ce que c'est qu'un cabaret féminin, c'est-à-dire un cabaret...
Je voulais vous demander justement de le préciser.
Bon, alors ce qu'on appelait un cabaret féminin à cette époque, c'était un cabaret un petit peu spécialisé sur l'homosexualité féminine, voilà. Alors elle apprend par les gens qu'elle côtoie, qui je suis, mais qui sont outrés de la voir amoureuse de moi. Et ça ne la dérange pas du tout. Au contraire, je me demande si ça ne la stimule pas dans ses sentiments. Et bon, finit par... le patron s'en rend compte, il dit « mais dansez un peu ensemble ». Alors on danse ensemble, je descends danser parce que je ne descends jamais dans la salle. Je descends danser avec Uta, bon, voilà. Et puis le patron demande si on ne pourrait pas faire un numéro. On est invité à aller en Italie, faire un numéro, on n'en a pas. Mais bon, on improvise quelque chose et je pars en Italie. Et à un moment donné, je fais un petit numéro avec Uta, voilà. Ça, c'était le début.
C'était quoi ce petit numéro ?
Ce petit numéro, c'était une chanson qui était... Je ne sais plus ce que c'était comme chanson. C'est une chanson sur un rythme sud-américain, quelque chose. Et on a fait une petite danse ensemble. Elle a pas chanté. On a fait une petite danse comme ça ensemble. Rien. Mais c'était une première manifestation de nous deux en scène. Puis après, nous avons fait d'autres numéros. Pas mal d'autres numéros. Et comme ça, nous avons fait des tournées ensemble, nous sommes restés à Paris, on a fait chez Arthur, au Carousel, on faisait 3 numéros par soir, un chez Madame Arthur, un au Carousel et un chez elle et lui. Voilà.
C'était une relation amoureuse ?
Ça a été une relation amoureuse, oui, oui, oui. C'est quelque chose qui m'a perturbée parce que c'était inattendu et c'était, ça s'impose à vous, les sentiments s'imposent à vous, hein. Vous ne les fabriquez pas. Donc ça m'a posé des problèmes, mais je ne me suis pas opposé à tout ça. Je me suis dit, bon, c'est comme ça, et puis c'est tout, voilà.
Quelle est connue votre histoire à jouer, vous pensez ?
Demandez-lui, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas du tout, je ne lui ai pas posé la question. Je me suis posé la question quand on était dans l'Italie et qu'on dormait dans le même lit. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Elle a dû se poser la même question. Et voilà, mais enfin, elle est assez finaude pour s'en sortir, moi.
C'est très beau, parce que c'est au moment où vous vivez votre transition, que
Ah oui, c'est passé déjà, le moment où j'ai vécu la transition.
Que vous vivez cette relation-là, avec une femme.
Ben,
c'est beau, ça a même un caractère romanesque.
Ah oui, c'est un caractère romanesque, je conviens, mais si c'est beau ou si c'est pas beau, ça, c'est une affaire de jugement personnel.
Bon, c'est mon jugement personnel. Mais c'est beau parce qu'on est toujours dans cette question de la féminité et qui se rencontre là presque en miroir ou de manière spéculaire, enfin quelque chose
oui,
qui est...
Peut-être, non peut-être. J'ai évité de réfléchir à ces choses-là. J'ai voulu les vivre sans me poser trop de questions parce que j'ai peur des questions, parce qu'on ne sait jamais comment on va y répondre. Alors, il vaut mieux pas trop se les poser dans ces conditions. Vous savez, quand les choses s'imposent d'elles-mêmes, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. J'ai tendance à me sentir coupable de tas de choses dans la vie et je ne veux pas trop l'être. Je ne veux pas trop être coupable. Je lutte contre ça.
Oui, c'est Hume qui dit que le philosophe écossais qui dit que de toute façon la vie donne elle-même les réponses. Parfois il faut se laisser un peu porter par.
Eh bien, oui, voilà, je fais comme si je l'avais lu.
Alors, vous tournez avec Uta.
Oui.
Combien de temps ça dure, cette
période de tournée ? 3 ans. À peu près 3 ans. Et puis, plus ou tard, à l'occasion... Vous savez, j'étais dans le cabaret, ma mère me répétait « Tu ne peux pas rester dans le cabaret toute ta vie », etc. J'y pensais beaucoup. Et ça faisait plus de 10 ans que j'étais dans les cabarets. Et je voyais passer les années, je me disais « Mais ça va... » Combien de temps ? Un jour, j'en étais tellement obsédé que je parlais à Capucine qui me raccompagnait chez moi un jour où j'avais une panne de voiture. Et je lui dis, mais elle, nous avons le même âge. Et je lui dis, mais tu sais, je suis inquiète parce qu'on va arriver à 30 ans et on sera vieille, enfin. Et elle me dit, oh non, 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 ne t'inquiète pas, on a 27 ans. On avait 27 ans, donc c'est facile de savoir quelle année ça se passait. On a 27 ans, on en a jusqu'à 35 ans à être belle. C'est-à-dire qu'après qu'on retombera. Bon.
Justement, on en a parlé hier de Capucine, et je ne vous ai pas assez demandé qui était-elle.
Alors, Capucine, elle était débutante, on est née le même mois, la même année. Elle était débutante quand je suis entrée chez Madame Arthur. Elle était toute débutante depuis 15 jours, elle passait en scène, mais elle connaissait Madame Arthur depuis plus longtemps, parce que Coccinelle l'avait hébergée, comme elle m'hébergera un certain temps, et elle avait demandé au patron de la faire travailler. Donc, il ne pouvait pas la faire travailler en scène, et il l'avait mise à l'atelier de couture. Comme elle sait coudre, en plus, elle a travaillé à l'atelier de couture jusqu'à ses 18 ans. Et le jour de ses 18 ans, elle a commencé à travailler en scène. Voilà. Et c'est une amie parce que toute l'année où nous sommes restés chez Madame Arthur, toutes les deux, elle venait très souvent dormir chez moi. Et on était vraiment... J'étais très contente de la connaître. C'est avec elle que j'ai pris la première fois le métro. Voilà, on est sortis ensemble. Non, c'était... Voilà, c'était un peu ma famille, quoi. C'est resté un peu ma famille, tout ça.
Justement, pour revenir à ce questionnement que vous aviez toutes les deux, donc Capucine et vous, combien de temps on va rester au cabaret ? On a 27 ans, on en a jusqu'à 35, bon. Mais pouviez-vous passer au cinéma, au théâtre ? Aviez-vous des propositions ? Qu'est-ce qui se passait ensuite,
justement ? Un jour, j'ai eu des propositions très tôt, parce que j'ai connu quelqu'un qui n'avait qu'une idée en tête, c'était... me faire sortir du cabaret, me dire, mais c'est pas pour toi, tu n'es pas faite pour rester dans les cabarets, tu devrais faire du théâtre. Je dis, mais je ne sais pas. Et il connaissait Jean Genet, et il me dit, mais non, Jean Genet serait d'accord pour te voir, pour voir si tu serais capable de jouer. Il avait préparé une pièce de théâtre, il m'a raconté le sujet de la pièce de théâtre, mais quand la pièce de théâtre est sortie, c'était pas ça du tout. Bref, je rencontre Jean Genet, puis chez Jean Marchat, car Jean Marchat était l'acteur du Français qui devait me donner des cours de théâtre. Bon, moi, je me sentais pas faire du théâtre, j'aimais assez plutôt le cabaret, parce que le cabaret, j'y étais dans mon élément. Me semblait-il, en scène, je donnais libre cours à mes sentiments d'être jolie, de plaire, etc. Alors qu'au théâtre, on est plutôt bien par son talent, il faut jouer un rôle. C'est-à-dire qu'en scène, j'avais l'impression on joue un rôle en scène, mais j'avais l'impression au cabaret que je jouais mon propre rôle, on joue pour soi. D'ailleurs, Jean Genet m'a dit, oui, mais les hauts musicals, on se met soi-même en valeur. Tandis que quand on est acteur, on met l'auteur en valeur. Il partait de ce principe. On met l'auteur en valeur. Bon, moi, c'était pas mon intention, mais enfin, bref, on se réunit après une séance à la Comédie-Française. On parlait de toute autre chose que de moi, et tout d'un coup, nous étions tous les quatre. Moi, j'étais maquillée, peut-être un peu trop, j'avais des talons hauts comme ça, j'étais très sophistiquée, la taille tellement serrée que j'étais assise au bord du fauteuil en me tenant bien droite. Et tout d'un coup, Jean Genet me dit « Dis-moi, peau de con. » « Peau de con ?» Ah non, ça pouvait pas sortir de ma bouche. Alors il me dit, il répète, il se lève, il vient, il me touche comme ça, et il me prend la main, il me fait lever. Alors je regardais un peu comme ça parce qu'il était petit. Et il me dit, bah, dis-moi, pot de con. Mais je suis restée absolument muette. Il est parti s'asseoir, et voilà, il n'a plus posé question, pratiquement.
Vous n'avez jamais traité Jean Genet de pot de con ?
Ah, oh non, j'aurais pas pu. Non, il voulait voir de quoi j'étais capable, justement. Alors, il dit à Jean Marchat, Monsieur Marchat, montre-lui l'expression du mépris. Et Jean Marchat a dit, vous savez qu'il était très grimaçant, Jean Marchat, et il dit, on verra ça plus tard. Naturellement, il n'y a pas eu de plus tard. Je suis rentré chez moi, c'est-à-dire au cabaret, et bien décidé à ne plus mettre les pieds au théâtre.
Quelle était la pièce ?
Le balcon.
Ah. Enfin, c'est quand même extraordinaire, ce contact avec Jean Genet.
Oh, je ne sais pas ce qu'il y a avec Jean Genet.
Vous le connaissiez ?
Non, enfin, je connaissais...
Et ensuite, vous l'avez
c'est fini. Je l'ai vu qu'une fois, c'était ce jour-là.
Et par ses livres ?
Oui, bon, les livres, oui. Les livres, Jean Genet, ne me passionnent pas comme, par exemple, Proust a pu me passionner, vous voyez ?
Les questions qu'il traite, par exemple, dans Notre-Dame des Fleurs, ou ne vous touchez pas ?
Quand je l'ai lu, ça ne m'a pas tellement touché, j'avoue. J'ai pas ça fait 40 ans que j'ai pas lu du Jean Genet, voyez-vous, donc entre-temps...
Puisqu'il est question justement de l'homosexualité.
Ben oui, mais je ne le suivais pas, quoi, dans ce qu'il disait.
Vous me faisiez une confidence avant que l'on se sépare hier. Vous me disiez que c'était venant du cabaret, vous n'étiez pas forcément, pas nécessairement, pardon, bien vu dans le monde du cinéma ou du spectacle. Ah, c'était pas non, nécessairement une carte de visite.
Venant du cabaret, et quel cabaret ?
C'est ça.
C'est surtout ça. Moi, je connais parce que monsieur qui s'occupait de moi, je ne veux pas dire les noms parce que, de toute façon, j'ai changé les noms dans ce que j'écris, mais il y a un metteur en scène, réalisateur de cinéma extrêmement célèbre qui a voulu me voir, mais c'était extraordinaire. Il disait à la personne, à ce monsieur, à Jacques, quand je l'appelais Jacques, il disait à Jacques, dites-lui de se retrouver à tel endroit, tel jour, à telle heure, et j'arriverai avec une voiture comme ça, puis nous changerons de voiture. Alors, il me prenait pour me sortir une voiture qui s'appelait, je crois, une Mercedes SS, je sais plus ce que. Elle avait des portes qui se levaient comme des ailes de voiture. Ça m'avait. Et elle allait très vite, paraît-il. Alors il me montrait sa voiture, on est parti. Et dans une auberge où on a tourné un petit bout de film, dans une auberge, dans la vallée de Chevreuse, mais je me souviens pas. Mais c'était incroyable. Il me disait qu'il ne m'appellerait jamais dans mon hôtel parce qu'il avait peur d'être fiché par la police. Je crois qu'il se faisait beaucoup d'illusions sur la police. La police avait eu autre chose à faire qu'à savoir, surtout qu'il était très célèbre. Et bon, son ami, il a rompu avec son ami à cette époque-là, mais on a absolument pas eu de liaison ou quoi que ce soit, non. Mais il avait très peur, en fait, très très peur. De la réputation.
Une sorte d'aura un peu sulfureuse, quelque chose de...
Ah oui, c'est ça, oui, la réputation... Je sais pas trop, mais j'ai pas, j'étais habitué. Je savais que ces choses-là étaient. Vous savez, j'ai entendu parler du carrousel d'abord et avant tout à la Pointe Pescade, et je savais ce qui s'en disait. Donc,
quand vous pensiez à ce que vous feriez après, s'il fallait s'arrêter à 35 ans parce qu'après on est trop vieille pour le cabaret. Vous aviez des idées, vous pensiez à ce qui se... Ou alors vous étiez au jour le jour ?
Non, je pensais. J'ai une amie qui travaille à Nice, d'abord dans une agence de voyage, et aussi dans des locations de voitures. Elle me disait, ce qu'elle peut faire, je suis très capable de le faire, mais voilà, il faut le faire, quoi.
Vous sortiez complètement de l'univers de la représentation, de la scène, de la...
Oui, mais ça ne me faisait pas peur de sortir de la représentation.
Il arrivait que vous en ayez assez de cet univers ?
Oh, ben des fois, non, dans les tournées, quelquefois. Non, j'aimais beaucoup cet univers dans la mesure où l'ambiance qu'il y avait dans les loges était agréable. Disons que c'était une ambiance... On s'amusait beaucoup, il y avait quelques méchancetés, quelques plaisanteries, mais il y avait un esprit ghetto dans la loge. Nous avions, en fait, nous étions liés par le regard qu'on portait sur nous globalement. Et ça nous constituait en ghetto, quoi, en quelque sorte. Mais quand on rentrait dans cette loge, on était libre. On parlait à des gens qui nous connaissaient, qu'on connaissait, dont on connaissait les problèmes qui étaient les nôtres, ou à peu près, parce que chacun mène sa vie. Je l'ai beaucoup regretté, mais enfin, j'étais décidée à le faire pour pouvoir changer de vie, parce que j'aspirais à changer de vie, il le fallait absolument, et il fallait que je vive, que je devienne Madame Tout-le-Monde. Je ne voulais pas être une affiche ambulante, et déjà, quand je vivais avec mon ami dans ma rue, j'aimais pas beaucoup qu'on sache qui j'étais. Ça finissait par se savoir.
À la différence de Coccinelle.
À la différence de Coccinelle, qui, elle, ne pouvait pas supporter qu'on ignore qui elle était. Oui.
Il n'arrivait pas qu'il y ait de rivalité. Vous décrivez cet univers comme un univers où vous étiez toutes très solidaires.
Non, il y a des rivalités, il n'y avait que ça. Mais il y avait une solidarité de fait. Par exemple, on savait très bien que dans le quartier à Montparnasse, parce que le Carousel était à Montparnasse à ce moment-là, aucune d'entre nous n'aurait pu entrer dans un restaurant sans risquer de faire fermer ce restaurant par la police. Donc ça c'est quelque chose que nous avions en commun. C'est vrai que je peut-être pas été soumise à d'abord, quand on avait changé d'état civil, le problème était résolu. Mais quand on n'avait pas changé d'état, comme beaucoup n'avaient pas encore changé d'état civil, ou d'autres qui n'ont pas voulu faire d'opération parce qu'elles avaient atteint le lieu qui les satisfaisait, eh bien, il y avait de grosses difficultés à cette époque, oui. Non, je n'avais pas de problème de ce côté-là. Mais certaines, oui, rivalisées, qui passent la première, qui passent la deuxième, qui passent en trois, etc. Tout ça, ça faisait quelques petites idées. Alors on disait, oui, toi tu es favorisé. On me l'avait dit au premier temps. On m'avait dit oui, parce que le patron est pied noir et toi aussi, donc il t'a favorisé. Mais enfin, on me l'a dit 6 mois, pas plus.
Vous n'avez jamais eu affaire au panier à salade?
Personnellement, non. Mais beaucoup d'entre nous, oui.
C'est-à-dire à la police, hein, bien sûr.
Oui. Ouais. Donc, il fallait que je change de métier absolument. Je ne pouvais pas me contenter de rester dans cette loge qui était très agréable, malgré les disputes, les rivalités, les jalousies, les zizanies de toutes sortes. Mais pour moi, de toute façon, j'avais pris en quelque sorte une sorte de hauteur parce que j'étais en rivalité avec personne. Bien sûr, mais je voyais arriver des jeunettes de 20 ans, et je me disais, non, combien de temps ça va durer? J'ai jamais été ennuyée par les débutantes, même si elles étaient extrêmement prometteuses, et même quelquefois très talentueuses et très jolies. Personne n'a menacé ma place. Mais je savais qu'il fallait que je parte, et que je n'attende pas trop. Alors j'attendais que l'occasion se présente. J'avais pris des cours depuis quelques années. Je prenais des cours d'anglais, d'allemand, parce que je me disais c'est ça qu'il faut prendre en Europe peut-être, parce que j'avais pas étudié ni l'anglais ni l'allemand à l'école. J'avais étudié l'arabe. Donc il fallait que je change.
Marie-Pierre Pruvot, merci beaucoup. À demain.
À demain.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Alexandre Breton avec Marie-Pierre Pruvot, alias Bambi. À voix nue, réalisation Véronique Lamandour, prise de son Clément Vuillet, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, déjà disponible sur franceculture.fr et l'appli Radio France.